Nous allons continuer notre étude dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Épître de Paul aux Thessaloniciens et chapitre 2. Le titre ce matin, il pourra peut-être vous surprendre au premier abord. Bon, parfois c'est fait pour, mais c'est quatre sortes de foi. Quatre sortes de foi, et on ne peut pas avoir tous les quatre. Donc il faudra voir s'il n'y en a pas une qui nous correspond, et peut-être ce n'est pas la bonne. Quatre sortes de foi, et donc je lis dans le chapitre 2, et je commence au verset 5, et je vais lire jusqu'au verset 12. Donc verset 5. Il dit « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu de cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, que notre travail et notre peine, jour et nuit, à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Verset 10, « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et c'est cette dernière parole que nous voulons, sur laquelle nous voulons nous arrêter, même juste une petite partie. Il dit, comme un père, eh bien, nous avons exhorté, nous avons consolé, nous avons conjuré à marcher d'une manière digne de Dieu. Marcher d'une manière digne de Dieu. Et c'est là où la marche par la foi est indispensable. Dans le chapitre 3, verset 10, eh bien, Paul dit, nous, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Il dit, nous avons cherché, nous avons prié Dieu qu'il puisse nous accorder le privilège de vous accorder ce qui manque à votre foi. Et il dit aussi, au chapitre 5, verset 8, eh bien, il fait référence à la cuirasse du chrétien. Et justement, il parle de la cuirasse de la foi, l'armure du chrétien, qui est plus développée dans Éphésiens 6. Mais il parle ici de la cuirasse de la foi. La cuirasse, c'est la partie qu'on porte sur la poitrine d'une armure romaine. Et c'est ça qui protège les affections, qui protège les pensées, le cœur et tout cela. Et donc, justement, c'est la foi. La foi, même s'il n'en fait pas un thème, mais la foi a une place importante dans la vie du chrétien. Dans Matthieu 8, 13, Jésus dit au centenier qui lui avait demandé, il lui a dit, écoute, mon serviteur est mourant, tu ne peux pas venir. Et Jésus répond à ce centenier, il lui dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. On ne va pas développer ça trop, mais juste en passant, je vous pose la question. Si Dieu vous accordait des réponses aux prières en fonction de votre foi, est-ce que vous en recevriez beaucoup ou peu? Si c'est en fonction de ma foi, en fonction de ma confiance en lui. J'ai beaucoup apprécié tout à l'heure quand le frère français a dit la confiance en Dieu parce qu'il est fidèle. Ah, c'est tout à fait ça. Lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, c'est le chapitre, quand je vous parle de la foi, certainement qu'automatiquement vous pensez à Hébreux chapitre 10. C'est le chapitre qui développe la foi, le thème de la foi. Mais il nous dit dans ce chapitre, et au verset 34, il dit que certains éteignirent la puissance du feu. C'est-à-dire que le feu n'avait pas eu d'effet sur eux. Et bien sûr, nous allons penser à ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été jetés dans une fournaise ardente, qui était une fournaise qui servait à fondre, créer de la fonte pour l'idole. Et donc, déjà, il faut que ça chauffe, ça chauffe bien. Mais en plus, il nous a dit qu'ils l'ont chauffé 7 fois plus que d'habitude. Donc, si on avait jeté du métal là-dedans, ça aurait coulé. Et eux sont jetés là-dedans. Et il nous dit que, à cause de leur foi, eh bien, le feu n'a eu aucun effet sur eux. C'est une histoire qu'on aime bien raconter aux enfants. Pour leur dire, et on peut faire confiance à Dieu, Dieu est puissant, Dieu prend soin de nous, Dieu est avec nous, parce qu'il y avait un ange qui était venu, qui était avec eux. Et tout ça, c'est des bonnes leçons qu'on tire de la chose. Mais ce que nous voulons voir dans cette histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois jeunes gens juifs qui étaient à Babylone, c'est justement de ce récit-là extraire 4 sortes de foi qu'on trouve mentionnées là. Et pour ceux qui prennent des notes, je vais vous dire quelles sont ces 4 sortes de foi. Alors il s'agit chaque fois d'une lettre C, ça commence par une lettre C. Il y a la foi, premièrement la foi crédule. La foi crédule, c'est-à-dire il croit tout. Il y a la foi couarde, ou lâche, couarde, celle qui a peur, qui ne prend pas de risque. Il y a la foi commerciale. La foi commerciale, c'est celui qui est tout le temps en train de négocier. Et puis il y a la foi confiante, confiante ou courageuse. Donc les 4 sortes de foi, on les reprendra. Mais on va commencer par la foi crédule. Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, vous l'avez certainement entendu plus d'une fois, eh bien, les gens, ils disent, peu importe ce que vous croyez, pourvu que vous croyez en quelque chose. Chacun sa foi, chacun sa religion, chacun son truc. Et puis, moi, je ne me mêle pas, tu ne te mêles pas de moi. Et puis, si tu as trouvé ce qui te va, c'est très bien. Et puis, voilà. Et la question, c'est que chacun, il a le droit, il a le droit de choisir son Dieu, mais ensuite, son Dieu ne pourra lui donner que selon ses capacités. Alors, si tu as un Dieu faible, tu n'auras pas grand-chose. Par exemple, si c'est mon argent qui est mon Dieu, moi je crois en l'argent, c'est tout. Vous l'avez entendu, Si tu crois en l'argent, tant que tu en as dans ta poche, ça va. Mais le jour où tu n'en as pas, ton Dieu, qu'est-ce que tu vas le faire? Il y en a d'autres qui vont dire, c'est moi, mon Dieu. C'est moi. Moi, je me débrouille avec ma force, ma santé. Ce que j'ai, c'est moi qui l'ai fait. C'est ce que j'ai, c'est moi qui l'ai obtenu. Moi, je crois en moi. Ça va, tant que tu as la santé. Mais le jour où tu n'as plus de santé, le jour où... tu deviens handicapé, ou c'est quelqu'un d'autre qui te met dans cet état, et bien que tu vas faire comment ton Dieu, tout d'un coup, il deviendra faible. Ou bien, pour d'autres, et bien leur Dieu, c'est un certain leader politique, c'est lui qui va nous donner tout ce dont on a besoin. On vote pour celui-là, il va changer notre monde, celui-là, c'est pour le changement. Ça fait quelque temps que je suis en France, et chaque fois, chacun, c'est pour le changement. Et puis... ça change toujours, on a la même chose. Mais si j'ai confiance en ça, je dis, moi, je crois dans le pouvoir du peuple, la politique, et on va arranger les choses, on va changer notre monde. C'est ton Dieu, il fera ce qu'il peut faire. Ou bien, il y en a d'autres qui disent, moi, Moi, j'ai investi dans une entreprise. Moi, j'ai investi de l'argent. Ça, c'est un truc gagnant. Hein, la bourse, c'est très. Surtout ceux qui ont de l'argent, ils essayent de. Mais bon, la bourse les a parfois déçus, hein, pas mal. Il y en a un qui me parlait il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, moi, j'ai mis dans la bourse. C'est pour ma retraite. Eh oui, mais en 2008, là, quand ça, la bourse elle a plongé, il a dit la moitié, j'ai perdu la moitié de ma retraite. Et oui, mais si c'est ça, ton objet de confiance, si tu comptes sur ça, eh bien, bon, ton Dieu, le Dieu que tu as, il peut pourvoir à tes besoins en fonction des capacités qu'il a. Après, il y en a d'autres, bien sûr. Il dit c'est ma femme, c'est mes enfants. Bon, tes enfants, ils sont mignons aujourd'hui, ils te font des sourires. Et après, des fois, ils grandissent, ils créent des problèmes. Hein, et tu vis que pour eux, c'est pas garanti. Vous savez, la foi crédule, en Occident, dans notre monde occidental, on est arrivé. On n'aime pas l'entendre, mais finalement, on est devenu beaucoup comme des moutons. Je vais vous expliquer comment on est des moutons. Il y a des entreprises qui payent très cher pour avoir une certaine star du foot ou du cinéma ou quelque chose. Et puis lui, il va brosser ses dents avec un certain dentifrice. Et il paye très cher pour avoir ça. Il faut le payer lui, il faut payer les 3 minutes sur la télé. Mais ils savent qu'il y a assez de monde qui vont acheter sous dentifrice pour que ça paye ça et ils vont gagner en plus. C'est-à-dire, tout d'un coup, tout le monde va commencer avec ce dentifrice-là. Ils savent qu'on est comme des moutons. Il suffit de mettre quelqu'un qui est bien connu et tout d'un coup, tout le monde suit, que ce soit les vêtements, que ce soit les lunettes, que ce soit le détergent pour la vaisselle, que ce soit n'importe quoi. Tout passe à la télé. Et s'ils payent si cher, c'est parce qu'ils savent que ça marche. Hein, ils ne le feraient pas. Ça marche. Ils voient tout de suite après, eh bien, ils voient que les ventes ont augmenté. Pourquoi? Parce que, eh bien, on suit. Si un tel le fait, eh bien, ça doit être bien. Alors que lui, peut-être, c'est justement, il s'en est servi uniquement pour ce jour-là. Hein? Mais bon, ça, vous savez, beaucoup de fois, vous entendez cet argument, les gens disent, mais tout le monde le fait. Alors tu es en train d'admettre que tu es un mouton. Tout le monde le fait, donc tu le fais. Le troupeau, il va dans ce sens, tu suis. Vous savez, les moutons sont capables de passer par-dessus une falaise et tous les autres suivent. Hein? Et combien de fois l'argument c'est, mais tout le monde le fait, même si ce n'est pas vrai. Hein, il y a très peu de choses où tout le monde le fait. Hein, vous regardez vraiment, vous dites, c'est quoi la mode? Ben, la mode, c'est ça. Mais tu regardes dans la rue, il y en a un sur 25 qui le fait. Mais on a fait croire par les médias que ça, c'est la mode et que tout le monde doit le faire. C'est la foi crédule. Où on monte et ça suit. Eh bien, ce roi Nebuchadnezzar, il a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que les gens le suivent. Alors, il a fait une statue, une très grande statue. Très grande. Et puis elle était recouverte d'or. Peu importe si la statue, elle est capable de faire quoi que ce soit, mais il voulait que les gens l'adoptent comme leur dieu. À partir du moment que c'est recouvert de l'or, si c'est en or, ça doit être bien. Les gens, si c'est joli, si c'est tape à l'œil, eh ben ça doit être bien. Et vous voulez faire réussir un programme, faut que ça soit, tu tapes à l'œil, que ça soit vraiment. Et puis les gens y croient. Vous savez si vos pots de confiture là, ils mettaient du papier noir autour et puis ils marquaient seulement en blanc et marquaient un peu comme les paquets de cigarettes. Confiture de fraises, sans mettre d'image ni rien du tout, on n'aurait pas envie d'acheter. Ils nous mettent de jolis dessins, des beaux images, des fraises, comment tu ne te retrouves pas au marché, pour vendre. Parce qu'à partir du moment que je le vois sur le papier et c'est imprimé, qui sait ce qu'il y a comme fraise là-dedans? C'est tout ce qui ne se vend pas qu'il y a là-dedans. Parce qu'on ne peut pas le vérifier. Mais à partir du moment que c'est joli, à partir du moment que ça fait une belle fraise sur l'emballage, eh bien c'est le meilleur. Si on mettait dans le rayon savon, des lessives, on mettait tous les autres et puis on en met un, c'est une boîte foncée, il n'y a rien dessus, il y a juste marqué détergent. Eh bien je suis sûr que ça resterait là, personne ne le prendrait. Pourquoi ? Tandis que si tu mets une jolie dame avec elle en train de faire la vaisselle et puis en train de faire sa lessive et puis on voit le linge blanc qui est tendu comme ça, alors ça fait vendre. Et ça prouve rien du tout. Mais à partir du moment que l'œil est ébloui, eh bien on suit. Alors Nebuchadnezzar, il a fait une idole, mais tout en or. Et ça, c'est irrésistible. En plus, il nous dit, quand vous lisez dans ce passage de Daniel 3, il nous dit qu'il a fait la statue grande. En fait, une statue, c'est pas plus puissant si c'est petit ou si c'est grand. Parce que c'est inanimé. Mais si tu le fais grand, tout ce qui est grand et imposant, ça attire. Hein, si on le fait grand, il y a beaucoup de monde là-bas. Donc, c'est bien. Ah, là-bas, ici. Eh bien, c'est pas là où il y a beaucoup de monde et c'est pas là où c'est grand que c'est toujours le meilleur. Hein? Si vous voulez suivre la religion, il y a le plus de monde, ben, il faut suivre l'islam aujourd'hui. C'est un quart de la population mondiale. Si vous voulez la plus riche, la religion la plus riche, eh ben, vous suivez les mormons. Ils sont tellement riches qu'ils arrivent à mettre de la feuille d'or sur leur temple. Ils sont plus riches que les catholiques. Mais la question c'est qu'est-ce que je veux, hein? Et en plus, le roi, ce jour-là, il a choisi un orchestre. Et puis il a choisi une musique spéciale pour que ce jour-là, eh bien, parce que vous savez, si vous mettez la bonne musique, hein, eh bien ça va mieux. Hein. Vous rentrez dans un centre commercial, il y a toujours de la musique. On l'entend, on ne fait pas attention, mais c'est toujours là. Vous rentrez dans un restaurant et mettez de la musique. Parce que on met la musique qu'il faut, hein, vous mettez la musique où vous voulez que les gens aillent doucement et prennent leur temps, vous mettez une musique douce, ils prennent leur temps à faire des affaires. Si vous voulez que ça débite, mettez une musique un peu plus rapide, les gens suivent. On est comme des moutons et ça marche et ils le payent, les centres commerciaux payent pour cette musique qu'ils mettent. Et après Nebuchadnezzar, il a rassemblé tous les gouverneurs, tout le beau monde, comme on dit, parce que ça fait impressionnant aussi. Pour que la population, il voit, il dit, waouh, ça c'est un dieu. Regarde la richesse, regarde la taille, regarde la musique, regarde le monde qui suit, c'est les deux. Le truc, c'est qu'ils étaient obligés. Mais on ne l'a pas dit. Hein? C'était tellement obligé qu'on avait dit celui qui ne s'agenouille pas, ne se prosterne pas devant cette statue, eh ben, il sera jeté dans la fournaise. Mais, pour ceux qui regardent de loin, ils disent, ça alors, ça marche là-bas. Là, c'est quelque chose. Là, ça bouge. Là, au moins, il se passe quelque chose. Et vous savez, la question que je vais poser, c'est pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Est-ce que c'est pour ressembler au monde autour de moi, pour m'intégrer, parce que je ne veux pas sortir du commun? Le langage que j'emploie, le comportement, les valeurs, les priorités, les ambitions, est-ce que c'est quelque chose que j'ai appris du monde qui m'entoure, ou est-ce que c'est parce que j'ai ma foi placée en Dieu? C'est très important. Sinon, j'ai une foi crédule. Je dis, mais bon, eux, ils font tous, c'est gagnant, c'est avec eux que je suis. Avez-vous choisi de faire partie d'un certain troupeau ou est-ce que vous avez choisi de suivre un berger? C'est ça la différence. Dans le monde, ils sont associés à un troupeau. Il y a des gens d'une certaine pensée, c'est un troupeau. Peu importe ce que c'est le plaisir, ou c'est la religion, ou c'est la guerre, ou c'est la politique, ou c'est l'argent. C'est un troupeau. Ou est-ce que j'ai choisi de suivre un berger, digne d'être berger? Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Et ça, c'est très important. Mais la foi crédule, c'est celui qui regarde d'abord ce que font les autres, et puis après, il suit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ici à Fréjus, je crois qu'il y a pas mal de chrétiens. C'est des gens qui étaient à l'église il y a un certain temps et qui n'y sont plus. Mais on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à les reconnaître parce qu'ils sont intégrés au reste. Hein, ils sont intégrés au camouflage. La foi crédule. Ensuite, je vous ai parlé de la foi couarde. La couarde, elle n'est pas courageuse, hein, elle est lâche. Vous savez, quand tout le monde était là devant cette statue de Nebuchadnezzar, et il a dit, voilà le signal, quand vous entendez la musique, vous vous prosternez. Et tout le monde s'est prosterné, sauf, il y avait trois jeunes qui sont restés debout, droits comme des poteaux. Ça se remarque, hein, vous avez vu, quand vous avez vu les photos des musulmans quand ils se baissent, et puis, alors s'il y en a trois qui restent debout, ça se voit, hein, de loin. Mais la question, c'est pourquoi il n'y avait que trois? Parce qu'à Babylone, il nous est dit qu'à l'époque, il y avait 70 000 juifs. Et en général, eux, ils sont intégrés partout. S'il y en avait trois dans le gouvernement, il y en avait d'autres. Hein. Mais pourquoi il n'y avait que trois qui sont tenus droit debout? C'est parce que certainement qu'il y en a d'autres qui se sont dit, oui, mais bon, si on passe au four, c'est pas très utile. Hein. On ne pourra pas rendre témoignage, mais si on reste vivant, après on pourra rendre témoignage. En réalité, ils avaient peut-être plus peur de la fournaise que de celui, que de Dieu. Hein. Celui qui craint vraiment Dieu ne craint aucun autre. Ces trois hommes, ils étaient prêts à être différents de tous les autres. Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Élie, hein, quand il est monté sur le Carmel. Il était tout seul. Hein. Il était tout seul sur le Carmel. Il y avait les 450 prophètes de Baal, il y avait les 400 prophètes d'Astarté, et lui tout seul. Et après, plus tard, quand il a pris peur et puis il est parti, Dieu lui dit, mais tu sais, il y en a 7000 hein, qui n'ont pas plié le genou. Et oui, mais où étaient-ils? Eux, ils étaient planqués, hein, comme on dit. Et Élie était tout seul, alors qu'il y en avait 7000 qui croyaient comme lui, mais ils n'étaient pas là. Et nous devons faire très attention est-ce que je suis prêt à me tenir debout pour mes convictions ou est-ce que je suis un croyant mais couard, hein, c'est la foi couarde. Les chrétiens couards, vous savez ce qu'ils font, ils vous voient, ils disent c'est bien ce que tu fais, je vais prier pour toi. Mais bon, c'est toi qui es exposé, hein, c'est pas moi. Et dit... Mais l'apôtre Paul disait, quiconque, c'est Jésus qui disait, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Il dit, si tu crois, il ne faut pas avoir honte de dire que tu es croyant, tu es chrétien. Après, si ça les fait rire, ben, c'est leur problème, hein, ils ont le droit de rire. Mais le truc, c'est que moi, je n'ai pas le droit, hein, de faire semblant de ne pas connaître. Ou si je vois qu'il y a un autre chrétien qui prend position, et puis je le laisse tout seul. Non, ben je me joins à lui, et puis je le soutiens. C'est la foi couarde, celle qui n'est pas courageuse, celle qui n'est pas prête à prendre position. Hein, où ça arrive tout le temps quand il faut les questions d'honnêteté. Hein, il faut mentir. Ah non, moi je ne peux pas mentir. Ah mais tu vas faire quoi? Tu vas nous créer des ennuis. Ah ben ça, vous vous débrouillez, hein, mais moi je ne peux pas mentir. Il dit, mais comment tu vas... Ah ben ça, vous savez, depuis que je vous ai rencontré, vous savez que je ne peux pas mentir. Alors, débrouillez-vous. Et c'est ça, souvent, combien de fois j'ai fait ça? J'ai dit, écoutez, hein, parce que vous savez, il y a constamment des choses, des trucs qu'on voit, et puis après si on est interrogé, moi j'ai dit, écoute, moi si on me pose des questions, je suis obligé de dire la vérité. Alors si vous ne voulez pas que je dise la vérité, vous débrouillez pour que je ne voie pas. Moi, je parle de ce que je vois. Et puis, c'est à eux de se débrouiller. Parce qu'eux, ils ont choisi un mode de vie. Pourquoi est-ce que moi, je dois changer mon mode de vie à cause d'eux? Ils ont choisi un mode de vie, le mensonge. Moi, j'ai choisi un mode de vie, la vérité. Voilà, c'est tout. Et puis, chacun fait avec l'autre. Hein? Nous devons faire attention. Hein? Il y en a qui... Bon, après, je me rappelle, il y avait un jeune à l'église, là-bas, il dit, oh, c'est dur en classe. Tu es en train de faire ton devoir, ton interro. Et tous les autres sont en train de tricher, mais toi, parce que tu es chrétien, le seul qui n'a pas le droit de tricher. Et tous les autres sont en train de tricher, tu les vois en train de tricher. Et tu sais qu'il y en a un qui n'a rien fait, il va avoir un 15, et toi, tu vas être content d'avoir un 10. C'est là où, après, est-ce que je suis courageux ou pas? Je peux être obligé de les dénoncer, mais moi... Est-ce que je suis fidèle à mes convictions? Je vais être honnête. Ma note, c'est ma note, même si c'est un 10. Mais c'est ma note. Tant pis pour eux, il y en a qui réussissent. Hein, il y en a qui... Pendant un temps. Hein. Le mensonge, il réussit que pendant un temps. Vous savez, un mensonge, on ne peut jamais faire dire qu'un seul mensonge. Un mensonge demande un autre. Parce qu'après, il faut couvrir le premier. Après, il faut couvrir les deux. Après, il faut couvrir les trois. Après, on ne sait plus ce qu'on a dit. Mais ça, bon, il y en a qui choisissent cette voie-là. La foi couarde. La foi commerciale. Ah là là, la foi commerciale. Il y en a qui croient uniquement pour ceux qui vont obtenir de Dieu. C'est-à-dire, je vais croire en toi, mais il faut que tu me donnes quelque chose. Il faut que tu me guérisses, il faut que tu me donnes du travail, tu me donnes la santé, tu me donnes la réussite. C'est-à-dire... Je crois, mais faut que ça m'apporte, sinon c'est pas la peine. Et vous savez, il y a des gens comme ça. Et vous savez, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar? Il a dit, mais quel Dieu va vous protéger de moi et du feu? Ils ont répondu, ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous le délivrera de ta main au roi, sinon sache... Ô Dieu, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, 17 et 18. Il a dit, voilà, notre Dieu, il peut nous délivrer. Maintenant, s'il veut le faire ou il ne veut pas le faire, ça c'est autre chose. Mais n'importe comment, nous, on ne va pas adorer ta statue. Ça, c'était une réponse. Il dit, écoute, tu ne peux pas tricher, tu ne vas jamais y arriver. Ah ben ça... Ça, c'est mon problème. Mais moi, j'ai choisi comme ça. Même si être honnête, ça ne rapporte pas. Je me rappelle, il y avait une sœur qui était sans papier et puis il fallait aller à l'administration. Ben, elle a dit, tout le monde lui a dit, écoute, il faut que tu racontes quelque chose. Il faut que tu racontes une histoire qui passe, sinon ils ne vont jamais te donner le papier. Elle a dit, moi, je dis que la vérité. Mais dis, tu dis la vérité, tu n'auras rien du tout. Elle a dit, moi je dis la vérité. Elle était venue au Seigneur, elle venait d'Algérie, elle était venue au Seigneur et elle a décidé qu'elle va dire la vérité même si ça fait perdre. Et bien finalement, elle a eu, avant son mari qui a voulu raconter des histoires, elle a eu avant lui. Et finalement, lui il a eu grâce à elle, parce qu'elle les a eues. Parce que la dame au bureau, elle a dit, mais écoutez, madame, je comprends, peut-être c'est vrai, mais avec ça, vous n'allez rien dire. Attendez, je vais vous raconter, je vais marquer quelque chose. Et c'est la dame au bureau qui a raconté et qui a mis quelque chose qui est passé. Mais elle avait décidé, ça c'est bon, ce que l'autre fait, c'est son problème, moi je dis la vérité. Mais c'est là où, c'est, je ne suis pas là, je ne vis pas de cette manière-là parce que ça va rapporter. Je vis parce que c'est vrai, parce que c'est la parole de Dieu. Hein? Nous sommes à une époque aussi, parfois dans certains milieux évangéliques même, ils nous disent que si tu crois, tu seras riche. Hein, c'est l'évangile de prospérité. D'ici, si tu crois, tu seras guéri. Si tu viens, tu crois en Jésus, après tu seras guéri. Si tu viens, eh bien, Dieu te donnera, il t'ouvrira les portes, c'est le bonheur et tout ça. Ça, c'est des menteurs. Parce que c'est pas vrai. Dieu peut guérir. Et parfois, Dieu choisit de guérir et parfois, Dieu dit non, je t'accompagne dans l'épreuve. Et c'est lui qui choisit. Donc celui qui dit, moi je viens à Jésus, s'il peut me donner du travail, puis il va me donner une épouse, et puis il va me donner un appartement, et puis j'aurai des enfants en bonne santé, là je peux suivre Dieu. Mais si c'est pas comme ça, écoutez, vous n'allez pas aller longtemps, que vous allez demander quelque chose à Dieu et il ne va pas le donner. Parce que c'est comme ça, il n'est pas obligé, c'est pas nous qui commandons, et c'est pas lui notre valet qui est là pour nous servir et pour donner tout ce qu'on veut. Hein, comme un enfant gâté qui a... ses parents qui sont là, ils font tout pour lui. Et lui, c'est le petit roi. C'est pas comme ça dans la famille de Dieu. Dieu refuse d'avoir des enfants gâtés. Il est un père qui nous aime et qui fait les choses correctement. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient décidé, ils disent nous, le premier commandement que Dieu a donné à Moïse, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu de ma face. Deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation de ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans la mer. Donc, Dieu, il a dit, ce statut-là, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Donc, c'est non. Voilà. Maintenant, si Dieu veut nous protéger du feu, il nous protège. S'il ne veut pas nous protéger, ce n'est pas grave, mais nous, on va faire ce qu'il a. On assume. Et c'est la réponse qu'ils ont donnée. Venez, Nebuchadnezzar, il dit, mais ils sont dingues, ces gens-là. Mais ils ne sont pas raisonnables. Comment ils vont s'en sortir? Le feu, je vais le chauffer et ils vont voir. Le truc, c'est que lui, c'est lui qui a vu. C'est pas eux qui ont vu, c'est lui qui a vu. Parce que d'abord, la première chose, il tremble un peu parce qu'il dit, est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes là-dedans? Il dit, si, au roi, on en a mis 3. Il dit, moi j'en vois 4. Et le quatrième ressemble au fils de Dieu. Alors là, il a commencé, il ne comprenait plus rien. Et puis, il voit qu'ils sont en train de se balader là-dedans. Alors, il les appelle. Il dit, sortez. Ils sortent. Ils sont là comme ça, au roi. Il dit, mais bon, d'abord, vous aviez les mains attachées. Il n'y a rien. Mais sinon, le reste, ça sent même pas la fumée. Il dit, voilà, le Dieu qui vous a protégé, c'est un grand Dieu. Et c'est lui qui commence à se dire, Après, il a parlé en bien d'eux. Il a dit, ça, c'est des gens qui sont fidèles à leur Dieu et ils ont bien choisi. Et tous les autres qui sont planqués, qui sont cachés, ils ont fait semblant de ne pas être, qui ont essayé de... ou bien qui ont fait, vous savez, des fois, c'est carré. Il dit, non, je ne me suis pas prosterné. Mais seulement, il a fait semblant de ramasser un bout de papier par terre pour qu'il ne paraisse pas. Il a dit, non, je ne me suis pas prosterné. Oui. C'est la foi commerciale, hein, pour ceux que Dieu... Vous savez, l'accusation que Satan a fait au sujet de Job. Il a dit, oui, mais il te croit, c'est parce que tu l'as béni. Regarde, tu l'as fait tellement riche, c'est l'homme le plus riche du pays. C'est pour ça qu'il croit en toi. Il a essayé de faire croire que la foi de Job, c'était une foi commerciale. Il te croit parce que tu l'as rendu riche. Eh bien, le Seigneur dit, tu verras. Enlève, fais ce que tu veux. Enlève tout ce qu'il a, si tu veux, et tu verras. Et Satan, il n'a pas pris longtemps. Dès qu'il avait l'autorisation, il l'a fait comme ça en un jour. Tout est parti. Et Job, il a dit, moi,
ça ne change rien, ma foi en Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Job n'avait pas une foi commerciale. Il a dit, que j'ai ou que je n'ai pas, il a même dit par ailleurs, et il a dit, Job 13, verset 15, il dit, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Même si Dieu me tue, je vais quand même espérer en lui. Ça, c'est une foi sincère. Alors, la question, c'est à chacun d'entre nous, si Dieu ne répondait plus à aucune de mes prières, hein, à partir d'aujourd'hui, il répond à plus rien. Il me donne rien de ce que je demande. Est-ce que je continuerai à croire en lui? C'est là le test. Est-ce que je continuerai à croire en lui? On dit, bon, c'est pas la peine de croire. Ça change rien, je lui demande, il ne fait rien. Mais ça dépend. Après, là, c'est une question de pourquoi est-ce que je crois? Est-ce que je crois pour ce que je vais recevoir ou je crois parce qu'il est Dieu? Est-ce que je crois de manière intéressée ou est-ce que je crois parce qu'il est Dieu? Hein? C'est comme le jeune homme qui marie la jeune fille et il la marie parce qu'elle est belle. Bon, avec le temps, elle ne reste pas aussi belle. Et puis s'il lui arrive quelque chose en cours de route, elle n'est plus aussi belle. Et alors, après, qu'est-ce que tu vas faire? Les gens du monde, ils ont d'autres solutions. Hein. Mais si je l'ai mariée, je dis, c'est celle que j'aime. Et peu importe en quel état elle sera, parce que qui sait, elle aussi, elle s'est engagée vis-à-vis de moi. Hein. Qui sait ce qui va m'arriver à moi aussi. Hein. Je veux qu'elle me soit fidèle, mais m'abandonne pas. Mais il ne faut pas que je l'abandonne au pli. Hein. C'est un engagement. Et c'est pareil avec Dieu. Non, Dieu, quand j'ai décidé, c'est plus fort qu'un mariage. Je reste avec toi. Peu importe la vie que ça m'entraîne. Ma pauvre femme, quand on s'est marié, elle ne savait pas ce qu'elle allait vivre. Elle en a eu des expériences. Bon, elle est encore là. Bon, elle est un peu fatiguée, mais elle est encore là. Hein? Mais ces questions, c'est en langage. Je suis avec toi, on va jusqu'au bout. Et avec Dieu, c'est un engagement pareil. Hein? Donc, pas la foi commerciale. Et après, la quatrième foi, hein, donc on a vu la foi crédule, la foi couarde, la foi commerciale, et puis maintenant, la foi confiante. Ça, c'est celle que les trois jeunes hommes m'ont dit, Dieu nous délivrera. C'est-à-dire, même si on passe par le feu, il nous délivre. Parce qu'on a la vie. N'importe comment, tu peux rien nous faire. Je m'appelle, il y avait un des frères en Algérie et on l'a menacé avec une arme. On lui dit, voilà, tu renonces à ta foi ou bien on tire. Il a dit, si vous tirez, ça me rend service parce que j'irai tout de suite au ciel. Sinon, je continue la vie. Ça. Il dit donc, si vous tirez... Alors l'autre, il a dit, c'est pas la peine alors. Mais on ne peut pas perdre avec Dieu. Il dit, je veux vivre sur cette... Et des fois, déjà entendu, les jeunes filles disent, ah mais je voudrais que me marier, avoir mon mariage avant que le Seigneur revienne. Comme si un mariage, c'est plus beau que ce qu'il y a dans le ciel. Une fois que tu seras au ciel, tu ne penseras plus à ton mariage. On passera à autre chose. La foi confiante, celle qui fait confiance en Dieu, eh bien, elle consiste à obéir quelles que soient les circonstances ou les conséquences. Vous savez, on ne présente pas de contrat à Dieu. Dis, Dieu, si tu fais comme ça avec moi, moi je serai comme ça avec toi. C'est un peu Jacob. Vous lisez les débuts, vous cherchez Jacob, l'histoire de Jacob. Il dit, quand il a eu ce songe avec l'échelle qui montait au ciel, il a dit, Dieu, si tu me ramènes, hein, moi je vais aller en Mésopotamie, mais si tu me ramènes, si tu prends soin de moi, et si tu... Eh bien alors... Je te donnerai la dîme et je croirai en toi, tu seras mon Dieu.
Mais c'est pas comme ça qu'on fait avec Dieu.
Dieu s'était déjà engagé de s'occuper de lui. C'est pas à cause de... Mais Dieu, vous savez, parfois, Dieu, il nous laisse dire des bêtises et il est patient. Et Dieu l'a gardé et l'a ramené. Et quand il est revenu, Jacob a dit, merci Seigneur, tu m'as ramené sain et sauf. Hein, quand il est revenu à Bethel. Mais c'est pas à cause du contrat. Hein. C'est pas parce que... Non, c'est parce que Dieu honore ses promesses. Il avait fait des promesses à Abraham et donc il les gardait. Et même si Jacob était pendant un temps était un voyou, mais Dieu a gardé ses promesses à Abraham. Et c'est pour ça qu'il est. Jusqu'à ce qu'un jour Jacob se transforme en Israël et Dieu lui donne un nouveau nom. Je vous fais remarquer qu'avec ces jeunes gens, ils n'ont pas négocié avec Nebuchadnezzar. Il dit non, nous, il n'y a pas question. Il dit, oh, je vous donne une deuxième chance. Voilà. Il dit, c'est pas la peine, nous c'est déjà décidé, pas la peine de deuxième chance. Tu fais ce que tu as à faire maintenant. Fais comme tu veux. On négocie pas. Et avec Dieu, on négocie pas. Avec le monde, on négocie pas. Ce que Dieu demande, je le fais. Ça, c'est confiance. C'est la foi. C'est la vraie foi. Je reviens à Hébreux chapitre 11, le livre sur la foi. Si vous relisez, je vous encourage à relire, vous allez voir qu'il y a une partie du chapitre, c'est des gens, ils disent par la foi, ils ont eu ceci, par la foi, ils ont eu cela, par la foi, ils ont eu des choses extraordinaires par la foi. Mais il y a un moment, à partir du verset 35, où il dit, et d'autres, eh bien, d'autres, ils ont souffert, d'autres sont morts, d'autres ont été sciés en deux, et tout ça. Mais c'est, ils avaient la même foi. Mais il y en a toute une partie, eux, ils n'ont rien eu. Ils ont dit, eux, ils étaient des fugitifs dans la vie. Mais ils avaient la même foi. C'est-à-dire, peu importe, j'ai confiance en Dieu, et je le suis, et ayant besoin de cette conviction, et cette conviction, on l'a, en lisant la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Et Dieu honore cette foi confiante. Abraham, il a quitté Ur en Chaldée, son territoire, c'était idolâtre, il l'a quitté. Les gens se sont moqués de lui. Il y a des gens, quand il est parti, on s'est moqué de lui et tout ça. Mais vous savez, on ne connaît pas les noms des gens qui sont moqués de lui. Mais le monde entier connaît le nom d'Abraham. Et puis Moïse, il a fait le choix. Il pouvait être dans le palais. Il aurait pu faire semblant de ne pas être juif. Il reste dans le palais. Il a toutes les richesses. Ou bien il reconnaît qu'il est juif. Et il dit, moi, ça c'est mon peuple. La question c'est maintenant... Moïse, on le connaît. Et tout le monde le respecte. Tandis que... Mais il a fait un choix. Il a fait le choix. C'est par la foi qu'il a fait ce choix. Plutôt que d'avoir toutes les richesses du peuple de l'Égypte, il a choisi d'être associé au peuple de Dieu. Ah, oh, le peuple de Dieu, c'est pas glorieux, hein? Mais c'est le peuple de Dieu. Donc... celui qui a la foi crédule va dire j'obéis si tout le monde le fait. La foi couarde dit obéis si tu ne risques rien. La foi commerciale dit obéis si cela te rapporte quelque chose. Et la foi confiante dit obéis si c'est juste. Hein, si c'est ce que Dieu a dit, eh ben alors tu obéis. Peu importe. Mais vous savez, c'est pas ce que je chante, je peux chanter des chants cantiques sur la foi, je peux faire des louanges, je peux faire des prières. Mais vous savez, la foi où elle se révèle, c'est lorsqu'on passe par la fournaise. Ces trois-là, eh ben on a su quel était le degré de leur foi quand ils sont passés par la fournaise. On dit souvent, c'est la difficulté qui fait ressortir les hommes. Hein. on distingue les garçons des hommes, c'est quand il y a des problèmes. Mais vous savez, je dirais, les crises ne font pas les hommes, mais ils mettent en valeur ce qui est dans l'homme. C'est-à-dire, c'est quand il y a le moment difficile, quand il y a la crise, quand il y a l'épreuve, quand il y a la difficulté, eh bien, c'est là où on voit ce qu'il y a vraiment dedans. C'est facile quand tout va bien. J'ai écouté un cantique récemment où elle disait, dans les paroles, dit « Le Dieu des montagnes, ah, on aime bien le Dieu des sommets, la réussite, le soleil, tout ça. » Mais il a dit, mais quand on est dans la vallée, c'est le même Dieu. Hein? Le Dieu du sommet, c'est le Dieu des vallées. Il dit, le Dieu des beaux jours, c'est le Dieu des mauvais jours. Le Dieu du jour, c'est le Dieu de la nuit. C'est le même, il ne change pas. Et moi, je n'ai pas à changer. Lui, il ne change pas, mais je n'ai pas à changer. Je fais confiance. Le psaume 23, il parle des verts pâturages et il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est le même berger. Les circonstances changent, mais le berger, c'est le même. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. L'apôtre Paul a dit « Je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » De Timothée 1,12. C'est l'épreuve, le feu de l'épreuve qui évaluera la nature de la foi de chacun. Donc ici, eh bien, c'était Thessaloniciens. Paul dit, moi, je voudrais que vous marchiez de manière digne de Dieu. C'est-à-dire, comme ces trois jeunes de Daniel 3, avec une foi courageuse. Et dans 1 Thessaloniciens, vous êtes là, au chapitre 3, verset 6, il dit, mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné une bonne nouvelle de votre foi et de votre amour. Et il nous a dit que vous aviez toujours de nous un bon souvenir. Il a dit, il nous a donné une bonne nouvelle concernant votre foi. Et si ce qui est important pour nous, c'est que on puisse donner un bon rapport de notre foi. C'est-à-dire, il a été éprouvé et sa tenue. Job, tant que tout allait bien, c'était difficile d'évaluer sa foi. Mais quand il a tout perdu et il l'a gardé, après là, on a dit, ah, là, c'était la foi. Ça, c'était du vrai. Oh, que ce soit nous aussi, que lorsqu'on passe par l'épreuve, parce que tous on passe par l'épreuve, un jour ou l'autre, eh bien que cela révèle le degré de notre foi. Et que notre foi, aujourd'hui, doit être basée sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Comme a dit le frère tout à l'heure, la confiance parce que Dieu est fidèle, confiance en Dieu parce que Dieu est fidèle. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Nous te remercions parce que tu prends soin de nous. Nous te remercions parce que toi, tu es vrai. Toi-même sur terre, tu es resté attaché. Tu n'as jamais été riche, tu es resté pauvre. Et tout le monde t'a vu. Certains sont moqués de toi, certains t'ont méprisé. Ils ont dit que tu étais l'ami des gens de mauvaise vie et des buveurs. Ils ont dit toutes sortes de choses. Ils ont même dit que ta naissance était illégitime. Mais tu as continué. Tu as été jusqu'au bout et jusqu'à la croix. Et Seigneur, donne-nous d'être fidèles à toi. Et d'être courageux. Et d'être confiant en toi. Sachant que toi, tu ne nous abandonnes pas. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, je te prie pour chacun ici. Tu sais les circonstances dans lesquelles chacun se trouve. Et je te prie de ranimer cette foi dans les moments difficiles et que nous puissions prendre position pour la vérité. Peu importe ce que ça nous coûte, comme ces trois jeunes. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
vais reprendre un cantique. Par la foi, nous marcherons. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Je vais lire les deuxième et troisième strophes. Il dit: dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Quatrième strophe. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par